qui porte plainte contre Weinstein a eu un impact très fort parce que ça a montré le caractère transclasse de ce problème.
Alors, avant que Jenny Bastier ne vous réponde, je vous dis que ma parole, si vous voulez, j'ose difficilement la formuler parce que j'ai peur qu'elle soit suspecte. Si je dis, par exemple, que la plupart des femmes que je connais n'ont pas connu d'événements traumatisants, qu'elles ont vécu avec bonheur la libération sexuelle, on me dira, oui, mais tu ne sais pas ce que tu dis, et puis tu le dis pour défendre les hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu peur de parler. Mais Eugénie Bastier.
Oui, d'ailleurs, je suis assez frappée de voir que beaucoup d'hommes, en tout cas, qui me disent, moi, tous les jours, j'ai des hommes qui me disent qu'ils n'osent pas prendre la parole sur ce sujet, et qu'ils ont peur de s'exprimer, ou ils ne se sentent plus légitimes pour avoir un avis... même un avis qui serait féministe d'ailleurs. Pour revenir au mouvement MeToo et à l'affaire Weinstein, c'est vrai que c'est ce qui m'a fasciné dans cette affaire, c'est pourquoi tout d'un coup un fait divers devient un fait historique, un événement historique, et pourquoi il y a tout d'un coup on se focalise sur cette affaire Weinstein et elle déclenche quelque chose, pourquoi ça prend. Et je crois qu'il y a, une dimension cathartique et mimétique dans ce mouvement. C'est pour ça que j'ai pris la référence à René Girard, le porc émissaire, le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'à un moment, tout d'un coup, l'ensemble de l'attention mondiale se focalise sur cette affaire et il y a quelque chose de mimétique. Et puis l'infrastructure primitive des sociétés, à savoir le sexe, ressurgit au grand jour, alors qu'on pensait peut-être que c'était un problème réglé une fois pour toutes. Alors je crois qu'il y a trois manières de lire ce mouvement, dont une m'apparaît fausse et les deux autres vraies. La première manière, c'est de voir ce mouvement comme une révolution. Je crois pas, moi, que ce soit une révolution, mais beaucoup de féministes le disent. La deuxième manière, c'est de voir ce mouvement comme une réplique sismique d'une révolution passée, c'est-à-dire la révolution sexuelle, et finalement... ce ne serait finalement qu'une réplique sismique de la révolution féministe qui a déjà eu lieu, et finalement ce mouvement MeToo ne serait que, comment dire, l'effacement d'une poche de résistance au mouvement féministe d'égalité, et finalement c'est parce que justement les femmes sont libres et qu'elles ont un statut égalitaire en Occident que le mouvement MeToo est précisément né en Occident, que les femmes ont pu prendre la parole. Et le troisième mouvement, et que moi je trouve intéressant, c'est de troisième lecture, c'est de dire, est-ce que ce serait pas aussi une contre-révolution MeToo? Parce que je crois que 50 ans après la libération sexuelle, après la proclamation du jouir sans entrave, de la destruction de l'ordre moral et de l'éthique sexuelle minimale, on a une aspiration à, en tout cas, une forme de codification du désir, une forme de règles dans la sexualité. Et je crois que, paradoxalement, on pourrait lire MeToo comme une aspiration conservatrice qui est déguisée sous un vocabulaire progressiste. C'est ma thèse en tout cas.
Conservatrice, c'est-à-dire
conservatrice dans le sens
un certain
où,
ordre moral.
Ah oui, un retour d'une éthique sexuelle minimale.
Alors,
Manon Garcia.
Moi, je, comme vous l'imaginez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, en particulier sur cette dernière interprétation, au sens où je trouve que c'est difficile. Alors, je sais que venant de vous, conservatrice, c'est un compliment, mais pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Je pense que c'est difficile de voir dans MeToo quelque chose de conservateur, au sens où ce qui est dénoncé, ce n'est pas justement les hommes en général, mais les agresseurs. Et ça me paraît étrange de dire que c'est vraiment très conservateur de considérer que...